Europe 1.
Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Il est considéré comme le plus grand danseur classique du XXe siècle. Je vais vous raconter aujourd'hui une bonne partie, presque la moitié, de la vie de Rudolf Nureyev. De sa naissance dans un train, le Transsibérien, en 1938, jusqu'à son passage à l'Ouest lors d'une tournée à Paris en 1961. L'histoire donc d'un gamin très pauvre qui a connu la faim, vraiment, qui nourrissait depuis l'âge de 7 ans le rêve de devenir danseur étoile, qui a commencé à apprendre la danse classique à 17 ans et qui est devenu soliste à 20 ans. C'est un destin, je vous le jure, absolument incroyable. Et je vais faire ce récit en m'appuyant à 100% sur son autobiographie écrite à l'âge de 24 ans, que la maison d'édition Artaud a eu la bonne idée de traduire enfin en français en 2016 et de rééditer sous la forme d'un livre de poche qui paraît ces jours-ci dans la collection Poche d'Artaud. Et pour le débrief, je serai avec celle qui a traduit cette autobiographie de Nureyev pour Artaud. Bonjour Ariane Dolfus.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée dans la danse. Vous avez d'ailleurs vous-même écrit une biographie de Nureyev en 2007 chez Flammarion. Et vous avez donc traduit cette autobiographie de Nureyev qu'on nous a gardée secrète en langue française pendant tant d'années. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Il faut d'abord que je commence par vous dire où je suis né, car ça n'est pas courant. Je suis né dans un train, figurez-vous, le 17 mars 1938. Ma mère allait rejoindre mon père à Vladivostok, où il était militaire, par le Transsibérien, et j'ai pointé le bout de mon nez au moment où le train frôlait le lac Baïkal, à la hauteur d'Irkoutsk. À l'arrivée, mon père était bien content, enfin un garçon. Jusque-là, il n'y avait que des filles dans la famille. Trois filles. Être né dans un train, j'ai toujours pensé que c'était un signe. Je suis né en route, je suis né entre deux, je suis né apatride. J'étais fait pour être cosmopolite. En 1941, j'ai 3 ans quand la guerre éclate. Mon père est mobilisé et ma mère se retrouve seule à Moscou avec 4 enfants sur les bras. Seul, pauvre et communiste. Ah, mes parents ont adhéré au Parti communiste dès le début. Mettez-vous à leur place. Ils étaient paysans. Ils travaillaient aux champs. La famine menaçait. La révolution, c'était un miracle pour eux. Un espoir d'envoyer leurs enfants à l'école, par exemple. Mes parents étaient des communistes inconditionnels. La guerre éclate donc, et assez vite une bombe tombe sur notre maison. On est évacué et on nous envoie en Bachkirie, à mi-chemin entre Leningrad et la Sibérie, dans les montagnes de l'Oural. C'est de là que vient notre famille. Les Nureyev ne sont pas russes, en vérité. Nous sommes des Tatars. Et en Bachkirie, on nous installe dans un petit village, dans une minuscule izba, avec 3 autres familles. Et on se retrouve, ma mère, mes 3 sœurs et moi, dans une seule pièce, qu'on doit en plus partager, avec un couple de vieux paysans russes d'au moins 80 ans. Et autour, des murs de neige, un monde glacial, et rien à manger, des patates, et rien que des patates, que ma mère fait cuire sur un petit réchaud, tellement petit qu'il lui faut des heures pour faire bouillir de l'eau. L'année d'après, on déménage dans la grande ville, Oufa, chez mon oncle, le frère de mon père. Et là, c'est pire, on se retrouve à 3 familles dans 9 mètres carrés. 10 personnes dans cette pièce minuscule. C'est long, les 6 mois d'hiver, sans soleil, sans lumière, enfermés dans cette pièce unique et sans rien à manger, ou presque. Un par un, maman vend le peu d'objets qu'on a, les vêtements de mon père, sa ceinture, ses bretelles, ses bottes. Pour manger. soir, ma mère part chercher un peu de nourriture, dans de la famille, à 30 km de là. À pied, bien sûr. Dans le noir, exténuée, frigorifiée, elle marche dans la neige. Et soudain, elle aperçoit dans le noir, comme des lucioles, des petites lueurs jaunes qui s'approchent. Des loups, une meute de loups affamés qui l'encerclent. Elle les voit s'approcher pas à pas. Que faire ? Elle attrape sa couverture dans laquelle elle s'est enroulée pour se protéger du froid. Et elle y met le feu. Et miraculeusement, voyant les flammes, les loups s'enfuient à travers bois. Voilà. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ma petite enfance. J'ai grandi dans un monde d'apocalypse. La faim, la peur de la mort. Il me faudra beaucoup, beaucoup de temps pour me remettre de cette impression d'horreur. Une seule chose m'a sauvé du noir dans ces années-là. La radio. Nous l'avions achetée à Moscou, elle nous a suivis dans notre petit village de Bashkiri. Je m'asseyais près du poste pendant des heures et j'écoutais de la musique, n'importe laquelle. Et c'est comme ça que je m'évadais un peu de cette pièce de 9 mètres carrés, de ses 10 occupants et de ma solitude. La musique, c'était mon ami. C'était ma seule amie. Je ne pouvais pas savoir que ces émotions allaient donner naissance à la grande passion de ma vie. La danse.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la vie du danseur étoile Rudolf Nureyev, considéré comme le plus grand danseur classique du XXe siècle. Histoire tirée de son autobiographie, écrite à l'âge de 24 ans et qui paraît ces jours-ci dans la collection Poche des éditions Artaud. Rudolf Nureyev naît en 1938 dans un train et il vit ses premières années dans la misère et la famine des années noires du stalinisme. La guerre éclate, son père part à la guerre et avec sa mère et ses trois sœurs, il trouve refuge dans l'Oural, en Bashkirie. Je me souviens de mon premier jour à l'école, je peux vous le dire. À 6 ans, je n'ai rien, vous entendez, rien à me mettre sur le dos. Je n'ai même pas de chaussures, ma mère doit me porter sur son dos. Et le premier jour, elle n'a rien d'autre à me donner que le manteau de ma sœur Lydia. Un manteau de fille, avec des ailes dessinées dans le dos. J'arrive à l'école, les autres se fichent de moi. On a un clochard dans la classe! On a un clochard dans la classe! C'est la première fois de ma vie que je vois d'autres enfants. Et ils me rejettent. Ça va me laisser une angoisse. L'angoisse d'être tyrannisé. Je n'ai rien à me mettre et à la maison, on n'a rien à manger. Un jour, je m'évanouis à l'école de faim. Je tombe dans les pommes. Je n'ai rien mangé depuis le petit déjeuner de la veille. En revanche, j'aime tout de suite l'école. Tout de suite. Et je deviens assez vite le meilleur élève de la classe. Et un jour à l'école, je dois avoir 7 ans. La maîtresse m'apprend à danser sur de la musique folklorique. Oh, ça me plaît tout de suite. Je rentre à la maison. Maman, maman, regarde. Et je chante et je danse tout l'après-midi. Et au fil du temps, les gens qui passent à la maison disent à ma mère.
Il a du talent, Rudy. Tu devrais l'envoyer à l'école du ballet de Leningrad.
Et à chaque fois, ma mère hausse les épaules. Leningrad. Pourquoi pas la lune ? Qui va payer ? Et en attendant, notre petit groupe de danse folklorique gagne sa petite réputation. Et maintenant, on nous envoie dans les hôpitaux pour distraire les soldats de retour du front. Leningrad. Leningrad. Mon destin est tracé. Je veux aller à Leningrad. Je veux apprendre la danse. Et pour le nouvel an de mes 7 ans, je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. Ma mère achète une place pour un spectacle de ballet à l'Opéra National d'Oufa, la capitale de notre république de Bachkirie. Une place, avec l'intention de faire entrer toute la famille. On est là devant le théâtre, devant la porte. La foule grossit de minute en minute et on pousse les portes et elles s'effondrent. Et on rentre tous. Oh, que c'est beau. Les lumières douces, le cristal des chandeliers, les vitres colorées, le velours, l'or. J'ai jamais vu ça, jamais. C'est un rêve, c'est un envoûtement. Ce jour-là, je connais l'émotion la plus forte de toute ma vie. Je me sens appelé, appelé comme un prêtre. Je veux être comme eux. Je veux être comme ces danseurs qui défient la loi de l'équilibre et de la gravité. Maintenant, je sais comment je veux vivre, mais je ne sais pas comment faire. Alors j'attends un miracle. Et en attendant, je poursuis ma vie à Oufa. Le groupe folklorique, nos répétitions, nos petits spectacles. Et la seule, vous entendez la seule avec laquelle je partage ça, c'est ma sœur Rosa. Un jour, Rosa rapporte à la maison des costumes de ballet. Oh, je les étale sur mon lit, je les caresse pendant des heures, je les lisse, je les respire. J'ai 8 ans et je suis possédé, je suis consumé par mon unique passion. Et en attendant, je voudrais apprendre le piano. Je le dis à mon père.
Mais Rudy, le piano, c'est très difficile. Tu ferais mieux d'apprendre l'accordéon. C'est bien plus utile pour se rendre populaire dans les fêtes.
Et donc, je n'apprendrai pas le piano. Mais je peux m'asseoir devant et jouer quelques airs simples. Bien sûr, comme tous les petits soviétiques, j'entre chez les pionniers. Des sortes de scouts, mais communistes. Et vers l'âge de 11 ans, grâce aux pionniers, je rencontre à Oufa une très vieille dame. Madame Udelstov, qui n'est pas professeure de danse classique, mais presque. Très musicienne, très cultivée, et qui a dansé autrefois dans le corps de ballet de Diaghilev, à Monte-Carlo. C'est la rencontre qui va changer ma vie. On m'amène devant elle. On me demande de danser, des pas de danse folklorique bien sûr, mais très technique.
Petit, j'enseigne la danse aux enfants depuis plus de 50 ans. Et c'est la première fois que je peux dire avec une certitude absolue. Tu as un don. Tu as le devoir vis-à-vis de toi-même d'apprendre maintenant la danse classique. Il te faut rejoindre les élèves du théâtre Mariinsky.
Et elle propose pour commencer de me donner des leçons 2 fois par semaine. Et c'est elle qui m'apprend les 5 positions.
Plié, battement. Plié, battement.
Un an, elle pense qu'elle n'a plus rien à m'apprendre. Et elle me confie à l'une de ses amies, Elena Vejtovic, une ancienne soliste du ballet Kirov de Leningrad. Et là, j'entends dire qu'il va y avoir une audition pour sélectionner les meilleurs jeunes danseurs de Bachkirie et les envoyer à Leningrad. J'ai été pris, mais mon père n'a pas voulu.
Niet, Rudy! Niet, Yeneratsu!
En vérité, ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Il n'avait tout simplement pas les 200 roubles pour acheter un billet de train. Oufa, Leningrad.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la vie du danseur étoile Rudolf Nureyev, le plus grand danseur classique du XXe siècle. Histoire tirée de son autobiographie, écrite à l'âge de 24 ans, et qui paraît, ces jours-ci, dans la collection Poche des éditions Artaud. Rudolf Nureyev naît en 1938 en Union soviétique, dans un train. Et il vit ses premières années en République de Bachkirie, dans la misère et la famine des années noires du stalinisme. Mais à 11 ans, il est repéré par une ancienne danseuse et apprend ses premiers pas de danse classique. Mais son père refuse de le laisser poursuivre sa formation à Leningrad. Mon père veut que je sois militaire comme lui, ou au pire, médecin ou ingénieur. Il ne supporte pas d'avoir à la maison une ballerine, comme il dit, un efféminé. Il ne veut plus que je danse à la maison. J'ai 14 ans. Je me sens seul, désespéré. J'ai tout, Fizi. Je suis obligé de me cacher pour danser. Et à l'école, ça ne va plus du tout. Extrait de mon bulletin scolaire. Nureyev travaille de moins en moins. Son comportement est épouvantable. Il saute comme une grenouille, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Il danse même dans les cages d'escalier. Mais je m'entête et je finis par être embauché comme figurant à l'opéra d'Oufa. 10 roubles par soirée. Je dois traverser la Seine habillé en mendiant ou en soldat romain. Rien de plus. Mais au bout, il y a une tournée dans toute la Bachkirie. Et puis un peu plus tard, vers mes 15 ans, ma République veut monter un spectacle à Moscou. Un spectacle d'art bachkir. Et je suis sélectionné. J'arrive à Moscou. Le jour même, on fait 3 répétitions. Et là, crac ! Crac, je me fais une entorse aux orteils. La cage venait de s'entrouvrir. Elle se referme. Une semaine plus tard, une amie m'obtient une audition chez un danseur du Bolchoï.
Très bien. Si tu passes l'audition pour entrer au Bolchoï, je pense que tu seras admis directement en 8e année.
Sauf qu'au Bolchoï, il n'y a pas d'internat. Il faut habiter en ville, il faut avoir de l'argent. Alors qu'à Leningrad, il y a un internat. Alors c'est décidé. Je m'achète un billet pour Leningrad. À peine arrivé, je fonce vers l'école du ballet de Leningrad. J'entre dans le hall, je croise un homme.
Bonjour. Je voudrais parler au camarade Chelkov, le directeur.
Je suis Chelkov. Que veux-tu ?
Je suis Rudolf Nureyev. Je suis un artiste de l'opéra d'Oufa. Je voudrais étudier ici.
Revenez dans une semaine, jeune homme. Il y a une audition.
Une semaine plus tard, je me retrouve pour une audition face à la plus grande professeure de l'époque.
Jeune homme, soit vous deviendrez un danseur très brillant, soit vous serez un raté complet. Et je dirais plus sûrement que vous serez un raté.
Ça veut dire que je vais devoir travailler comme un fou. Mais c'est normal. Je n'ai suivi aucune formation classique. N'empêche qu'à 17 ans, en août 1955, j'entre à l'école du ballet de Leningrad avec une bourse, en internat, dans un dortoir de 20. 8 à 11 heures de travail par jour. De 8 à 10, histoire de l'art. De 10 à midi, littérature. Puis 2 heures de ballet classique. Puis 2 heures d'histoire de la danse et de la musique. Et puis encore 2 heures de danse. Le dîner. Et le soir, la possibilité d'assister aux répétitions des danseurs du ballet. Le directeur du ballet, Chelkov, a absolument tenu à m'avoir dans sa classe. Et dès le début, il n'a cherché qu'à m'humilier.
Tu es ce qu'on appelle un bon à rien de province.
Il a raison sur un point. J'ai du mal à m'intégrer dans cette école conservatrice. J'ai du mal avec la discipline. Et Chelkov finit par me confier à un autre professeur, Alexandre Pouchkin. Il faut que je vous lise le petit mot qui accompagne mon transfert. Je t'envoie un idiot obstiné, un sale gosse un peu simplé qui ne connaît rien au ballet.
Je te laisse en juger par toi-même. S'il continue dans cette voie, nous n'aurons pas d'autre alternative que de le mettre à la porte. » Avec cette recommandation, il a fallu un peu de temps pour que Pushkin s'intéresse à moi. Et les autres, les 8 autres élèves de la classe, ne m'épargnent pas.
« Et regarde-toi, Nouraïev. T'as pas de formation. T'as pas de technique. »
Ils ont raison. Je ne sais rien. Et à la fin de l'année, je ne suis pas sélectionné pour l'examen final. Mais en cachette, je prépare un pas de 2. Et un soir, je supplie Pushkin de me regarder.
« Bien, bien. Tu vas pouvoir participer à l'examen, Rudy. »
Je suis enfin intégré. Et après, ça va à la vitesse d'un Spoutnik, comme ils disent. Pushkin me regarde avec des yeux neufs. Je commence à danser des rôles principaux dans Le Lac des Cygnes, dans Casse-Noisette, dans Gisèle. Je participe au concours de Moscou. Et à la fin, on vient me dire
« Tu nous as éblouis, Rudolf !»
Et dans la foulée, on me propose 2 places de soliste, l'une à Moscou, l'autre à Leningrad. Comment choisir? Je réfléchis un peu et je choisis Leningrad, le ballet Kirov, qui est moins rigide, qui est plus sophistiqué, qui est moins contrôlé que le ballet de Moscou. Vous vous rendez compte? J'ai 20 ans et je suis devenu soliste après 3 ans de formation seulement. Après... Ne croyez pas que je deviens un privilégié. Je vis dans un appartement communautaire, à 8 dans une pièce, avec les machinaux et les chauffeurs du théâtre, sur des lits superposés. Et là, la tuile. La veille d'un spectacle, je me blesse. Déchirure du ligament de la jambe droite. La catastrophe absolue. C'est la fin. Je n'ai plus qu'à mourir. On me déclare inapte à la danse pour 2 ans. Eh bien, Pushkin, mon grand professeur, me prend chez lui. Et sa femme me dorlote. Et en 3 semaines, je suis sur pied. Un miracle. Et juste après, je suis sélectionné pour un festival à Vienne. En Autriche. J'ai bien failli ne pas y aller, je me suis pris la tête avec l'un des professeurs, devant tout le monde.
Si la danse classique devient moribonde un jour, eh ben c'est à cause de gens comme vous. Hein? Vous voulez nous faire danser dans un style vieux de 40 ans. Les gens ne viennent pas nous voir pour la technique, enfin. Ils viennent nous voir pour notre émotion.
Je sais. Je ne suis pas assez collectif. Je suis individualiste. Et d'ailleurs, je n'adhère pas aux Komsomols, les jeunesses communistes. Je ne participe pas aux activités de groupe. Je n'ai pas d'amis. J'entends ce qu'on dit de moi dans mon dos. On me calomnie. Mais je vais danser à Vienne. Et bientôt, j'irai danser à Paris.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la vie du danseur étoile Rudolf Nureyev, le plus grand danseur classique du XXe siècle. Histoire tirée de son autobiographie écrite à l'âge de 24 ans et qui paraît ces jours-ci dans la collection Poche des éditions Artaud. Rudolf Nureyev naît en 1938 en Union soviétique et il grandit dans la misère et la famine avec l'obsession de devenir danseur. À 17 ans, il intègre l'école du ballet Kirov de Leningrad et 3 ans plus tard, il est nommé soliste. Mais son caractère, son individualisme, son refus du conformisme suscitent beaucoup de suspicions. Ah oui, depuis mon retour de Vienne, on me suit. Les policiers me suivent dans la rue. Et je commets une grosse faute au regard des autorités. Un jour, des Américains viennent danser chez nous à Leningrad. Et je vais dîner avec eux au restaurant. Fallait pas. Alors on m'exile. À Berlin-Est,
Et je me retrouve à danser dans des cafés et des théâtres vétustes devant des gens à moitié sous. Et quand je rentre, on me laisse 3 mois sans danser. 3 mois. Et après, on m'envoie dans le nord de la Russie, quasiment au pôle Nord. J'y vais. Mais le lendemain, je rentre de moi-même. Insubordination.
Vous devez obéir, Nourrière. Vous n'êtes plus autorisé à quitter le territoire. Vous n'irez plus danser à l'étranger.
Alors je ne pourrai pas aller en France. Le ballet Kirov doit aller à Paris au printemps prochain. Je n'ai aucune chance. Sauf que le ballet Kirov a sélectionné pour ce spectacle à l'Opéra de Paris un danseur étoile de 50 ans. Et les Français ne veulent pas d'un vieux. Et c'est comme ça que finalement, je suis choisi pour Paris. L'avion décolle le 11 mai 1961. Et j'arrive donc à Paris. Moi, le mouton noir du ballet Kirov. Montmartre, Montparnasse, les quais de Seine, le Louvre. J'y passe des heures. J'adore. Il y a à Paris quelque chose d'électrique dans l'air. On met quelques jours à me faire danser le Bayader de Minkus. Et là-dessus, je tombe amoureux de Clara, une belle brune. Les gardes-chiourmes du ballet Kirov n'apprécient pas.
Nous te demandons de cesser de voir cette fille. Sinon, nous allons devoir te punir, Nourrière.
On me réprimande comme un enfant. Ils n'attendent qu'une chose, que je commette une faute pour me renvoyer à Moscou. Et désormais, un sbire du ballet me suit pas à pas. Après un mois passé à Paris, nous devons nous envoler tout à l'heure pour Londres, pour 15 jours. Je monte dans le bus pour l'aéroport du Bourget. Dans le bus, le directeur du ballet nous distribue nos billets d'avion. Et puis arrivé au Bourget, il me le reprend. Et là, je comprends quand le directeur du ballet vient me voir au bar de l'aéroport.
Rudy, nous venons de recevoir un télégramme de Moscou. Tu dois danser demain au Kremlin. Tu n'iras pas à Londres. Tu vas prendre tout de suite un Tupolev pour Moscou. Il décolle dans 2 heures.
Ma tête se vide. Il me ramène à Moscou. Je ne serai jamais danseur étoile. Je ne pourrai plus jamais sortir de mon pays. Je demande alors l'autorisation d'aller dire au revoir aux autres. Ils se mettent tous à pleurer, même ceux qui m'aiment pas. Et là, au loin, je vois arriver Clara.
Clara, j'ai pris ma décision.
Je la vois qui va alerter 2 policiers français.
Il y a un danseur russe là-bas. Il veut rester en France.
Là-dessus, les autres s'envolent pour Londres. Clara réapparaît avec les 2 policiers français. Et je me jette dans leurs bras.
Je veux rester ici. Je veux rester ici.
D'accord, d'accord, monsieur. Alors voilà la règle. Nous allons vous placer dans cette pièce, seul, pendant 5 minutes. Vous réfléchissez. Dans cette pièce, il y a 2 portes. Si vous voulez rentrer en Russie, vous ouvrez cette porte-là. Elle donne sur la salle d'embarquement. Si vous voulez rester en France et formuler une demande d'asile, vous ouvrez cette porte-ci. Elle donne directement sur notre bureau. D'accord ?
Là-dessus, arrive un secrétaire de l'ambassade soviétique.
Nourrieff est un citoyen soviétique. Vous devez me le remettre.
Nous sommes en France, monsieur. Monsieur Nourrieff est placé sous notre protection.
Mais vous l'avez arrêté. C'est illégal.
J'entre dans cette pièce. Je pense à mes proches, à mon professeur Pouchkine, qui est comme un père pour moi. Au ballet Kirov, que je considère comme le plus grand ballet du monde. J'hésite. Qu'est-ce que je vais trouver ici, en Europe? Et puis je me lève et je vais ouvrir la porte qui donne sur le bureau des policiers. Je reste en France et je commence ma nouvelle vie. nu, nu comme au premier jour de ma naissance. Voilà donc pour ce récit tiré des mémoires, des confessions, de l'autobiographie de Nourrieff, qui est publié à nouveau par les éditions Arthaud en collection poche, 2 ans après sa traduction. Et je suis avec celle qui a traduit cette autobiographie de Nourrieff, qui est par ailleurs une journaliste spécialisée en danse classique, Ariane Dolfus. Et j'ai tenu absolument à raconter l'enfance de Nourrieff, parce qu'il est important de savoir d'où il vient, c'est peut-être la clé de toute son histoire. Et je vous propose dans un instant, si vous en êtes d'accord, Ariane, de commencer par ça, après la pub.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelatte qui aujourd'hui vous raconte la vie d'un homme qui a marqué la danse du XXe siècle.
Je vous ai raconté aujourd'hui les 23 premières années de la vie du danseur étoile Rudolf Nourrieff, né dans la misère sous Staline en Union soviétique et devenu danseur au Ballet Kirov à Leningrad, et qui fait le choix en 1961, à l'âge de 23 ans, de passer à l'Ouest lors d'une tournée à Paris. Et pour le débrief, je suis avec celle qui a traduit son autobiographie en français, dont je me suis évidemment plus qu'inspiré, dont j'ai tiré mon récit, la journaliste Ariane Dolfus. Nourrieff, je l'ai raconté, Ariane a connu la misère la plus extrême, la faim, la privation, les loups tout de même qui manquent de dévorer sa maman. Moi je me dis que c'est peut-être de là que vient à la fois son individualisme et cette volonté incroyable qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé, non ?
Ah oui, mais je trouve que ce récit est très touchant. Enfin, même personnellement, je connais évidemment ce texte, mais je trouve qu'on voit bien à quel point Nourrieff avait soif. Soif de vivre, soif de vivre sa passion, soif d'apprendre. Et on a soif que si on n'a pas eu d'eau. Et lui a vécu ça, ce manque permanent. Il a un souvenir atroce de son enfance. Et on voit bien que c'est dans la nudité qu'il va vouloir devenir quelqu'un.
On sent qu'il s'est construit en fait contre son père.
Ah mais absolument.
Et il a arrondi probablement pour l'autobiographie un peu les angles. Est-ce qu'il l'a revu son père d'ailleurs plus
Il
tard
n'a jamais revu son père. Il le détestait. Et d'ailleurs, la biographie que j'ai écrite avant de traduire ce texte, j'avais voulu qu'il soit sous-titré « L'insoumis » parce qu'il était insoumis à tout, insoumis de caractère, mais aussi, il a toujours refusé de se soumettre à son père. Il y a une histoire d'ailleurs qu'on pourrait ajouter à votre récit, c'est que son père le battait régulièrement lorsque il apprenait qu'il était allé à son cours de danse. Et Nourrieff mentait, alors avec une raison vraiment bien trouvée, en disant qu'il allait faire les courses. Et à l'époque, il n'y avait rien dans les magasins, donc il y avait des queues. Donc le temps de trouver à manger dans un magasin, mais il avait le temps d'aller prendre un cours de danse.
Mais d'après vous, qu'est-ce qui suscite chez son père ce refus absolu qu'il aille au bout de sa vocation? Il est efféminé? Il n'est pas l'homme tel que le père l'est?
Je pense que, à la limite, on peut comprendre cet homme qui n'a qu'un fils. Il a 3 filles. Bon, alors les filles, on ne les regarde pas trop, mais il a un fils et il veut que son fils s'élève socialement en parlant, et puis est une profession rassurante pour lui.
Alors tout petit, il a quand même un caractère à part. Il le dit lui-même, à l'école, il n'a pas d'amis. Sa seule confidente, c'est sa sœur.
Absolument. Et je pense que ce caractère-là, qui n'est absolument pas fait pour cohabiter avec le réalisme soviétique, le communisme, la collective. Vie dans le collectif, ça ne marche pas avec
mais,
lui.
Mais d'où lui vient cet individualisme ?
Je pense que c'est sa nature profonde. Et je pense aussi, vous l'avez bien dit, cette promiscuité absolue qu'il avait dans son enfance. Vivre à 10 dans 9 mètres carrés, je pense qu'après, on ne supporte plus l'autre.
Ouais.
Et puis après, il y a son caractère qui a été un défaut au départ, mais une formidable qualité pour foncer.
Alors il le dit assez vite, dès son enfance, un ressentiment à l'égard du régime communiste, mais en vérité il est aussi un produit de ce régime, c'est-à-dire que si le communisme soviétique n'avait pas été ce qu'il a été, s'il n'avait pas entretenu des opéras, des orchestres dans les provinces les plus reculées, la Bachkirie est la dernière province d'Union soviétique, et pourtant il y a un opéra et c'est grâce à cet opéra qu'il met un pied dans son rêve.
Exactement, et il disait toujours qu'il était redevable à l'Union soviétique de lui avoir permis d'étudier avec des bourses et de pouvoir devenir danseur alors qu'il n'en avait pas les moyens au départ.
Et alors il va chez les pionniers mais il refuse les Komsomols. C'est-à-dire que il est adolescent, le côté aller faire des jeux, des camps, c'est du scoutisme communisme les Komsomols.
Voilà, et puis surtout mentir, ça il y a un truc que Nouraïev ne sait pas faire, il ne sait pas mentir, il dit la vérité, alors des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire, mais quand on est au Komsomols, on doit dire oui en permanence à la pensée centralisée. Et lui, s'il pense non, eh ben il va dire non. Voilà, c'est ça.
Ce qui est très moderne, d'une certaine manière. Son entrée au ballet Kirov de Leningrad est très intéressante parce qu'il y a une ambivalence de ses professeurs. Dès le début, il l'aime et il le déteste, presque dès les premières minutes.
Absolument, mais parce que je pense, d'abord, on pouvait douter effectivement de ses capacités quand il avait 17 ans, mais surtout, on pouvait l'aimer parce qu'il était extrêmement travailleur. Il restait enfermé tout seul dans un studio jusqu'à 23 heures s'il le fallait, en virant tout le monde. Alors voilà, l'ambivalence, elle est là. C'est qu'il était odieux parce qu'il ne pensait qu'à sa seule réussite. C'était pas par carriérisme, c'était par volonté de perfection. Voilà.
On va marquer une petite pause, je rappelle le titre de cette autobiographie, Nouraïev, qui reparaît dans la collection Poche de chez Ardo et que vous avez contribué à traduire, que vous avez même totalement traduite, Ariane Dolfus.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, Christophe Ondelat aujourd'hui vous fait découvrir la vie de l'un des plus grands danseurs du XXe siècle.
Je vous ai raconté aujourd'hui les 23 premières années de la vie du danseur étoile soviétique Rudolf Nouraïev, né dans la misère sous Staline, devenu danseur au ballet Kirov de Leningrad et qui, en 1961, au cours d'un voyage à Paris, fait défection et passe à l'Ouest. Et pour le débrief, je suis donc avec celle qui a traduit son autobiographie en français des années et des années après, puisqu'elle est parue en 2016 et qu'elle reparaît ces jours-ci en collection Poche aux éditions Arto. Parlons de Pouchkine, qui est donc son maître, dont il dit dans son autobiographie qu'il est comme son deuxième père, et on sent bien en vérité que c'est son premier père, c'est le seul à qui il reconnaît une paternité. Lui aussi, au départ, il est ambigu, il le prend. Ce Nouraïev dont Chelkov lui dit « c'est un ego, tu verras, il n'y a rien à en tirer ». Mais en même temps, il voit bien qu'il a du talent et il se dit que peut-être ça pourra le faire reluire un peu lui-même, non ?
Ah ben je crois qu'en fait, il ne le regarde pas parce qu'il ne l'intéresse pas, mais au contraire, justement, parce qu'il comprend que c'est en affichant un pseudo désintérêt pour lui que Nouraïev va faire encore mieux pour le séduire. C'est
il
très malin,
ça.
En fait.
Hein. Oui. C'était un séducteur, donc il le laisse le séduire.
Voilà, exactement.
D'ailleurs, comment Pouchkine a-t-il vécu son passage à l'Ouest, puisqu'on parle de
très
Pouchkine.
Mal, très très mal.
D'ailleurs, il pense à lui, hein, à l'aéroport
oui,
de Bourget.
Oui, absolument, il le dit, hein, il pense à ses parents, il pense à sa copine Tamara, avec qui il prenait beaucoup de photos, et qui s'entendait très bien, et puis il pense à son professeur.
Alors, concernant son passage à l'Ouest, évidemment, le ballet savait qu'il était risqué d'envoyer un esprit aussi indépendant en Europe en 1961. Mais finalement, il était incontournable.
Il était incontournable parce que c'est une Française qui est allée... ça, il n'en parle pas, Nouraïev, parce qu'il y a beaucoup d'ellipses dans cette autobiographie. Il y a des noms qu'il ne cite pas afin de les protéger. Cette autobiographie...
Elle sort en 65, c'est ça ou très
En 62.
62, donc oui. Très vite après.
Ah oui, un an après sa défection. Ça c'était un coup d'édition extraordinaire à l'époque. Hein. Et donc, c'est une Française qui était chargée de la tournée à Paris, qui a découvert absolument par hasard Nouraïev. Elle voit qu'il y a Don Quichotte qui se joue le soir même, et elle dit « Tiens, j'aimerais bien voir Don Quichotte », et le directeur du ballet lui dit « Non, non, c'est un ballet totalement poussiéreux, ça n'a aucun intérêt ». Elle y va quand même, et elle découvre Nouraïev, et elle dit « Je veux Nouraïev ».
Votre danseur étoile de 50 ans, vous le gardez, c'est lui que je veux.
Le danseur étoile de 50 ans, c'était le directeur de la compagnie en plus. C'est ça qui est incroyable. Et le directeur de la compagnie qui détestait Nouraïev comprend vite, ça c'est assez malin de sa part, comprend vite l'intérêt qu'il a de faire venir la future superstar qui contribue au succès de la tournée.
Donc il fait défection à Paris. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne devient pas français. Il devient autrichien.
Non.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Alors j'ai appris il y a peu de temps par un de ses proches amis qu'il avait toujours rêvé d'être français. Mais la France ne lui a pas proposé, car la France a peur de l'Union soviétique. La France ne veut, de Gaulle ne veut pas avoir, exactement, ne veut pas avoir de problème avec Khrouchtchev et avec le régime soviétique. Et la France le délaisse pendant 5-6 ans. Il est persona non grata à l'Opéra de Paris. Il ne danse pas à Paris. Et c'est l'Angleterre qui comprend tout de suite l'intérêt. Eux s'en fichent royalement de déplaire à Moscou. Et le Royal Ballet de Londres l'invite. Et c'est là où il va.
C'est là qu'il va exploser.
Absolument.
C'est là qu'il va devenir une star mondiale. Et il aurait pu le devenir chez nous, en France.
Il aurait pu le devenir chez nous. Alors, on s'est rattrapé bien des années plus tard.
En 83, hein, c'est ça. C'est Jack Lang qui le fait venir.
C'est ça. C'est Jack Lang qui a eu cette idée géniale de proposer, sitôt Mitterrand élu président de la République, il lui propose de faire venir Nouraïev à la direction du ballet de l'Opéra de Paris. Donc, on s'est un peu...
On s'est rattrapé, quoi.
On s'est rattrapé, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il a été un bon directeur de l'Opéra de Paris? Il y a débat là-dessus, parce que est-ce qu'on est un bon directeur quand on est à ce point individualiste, égocentrique, centré sur soi-même?
Alors, ça a été très dur, mais finalement, c'est ce caractère-là qu'il a su insuffler à ses danseurs. Alors, il fallait juste adhérer à la méthode. La méthode était peu courtoise, il parlait très mal aux danseurs, il pouvait être violent physiquement, ça tous les danseurs le disent et le racontent facilement. Il était odieux, mais ceux qui ont adhéré à cette exigence absolue qu'il avait vis-à-vis de lui-même, eh bien, ils sont tous devenus de très très grands danseurs.
Il est mort en France, du sida, disons les choses, en 1993, et il est enterré en France.
Au très joli cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois qu'il faut absolument visiter. Il est mort le 6 janvier 1993.
Mais ceux qui iront sur sa tombe seront surpris sur un point dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Il n'était pas orthodoxe, il était musulman. Et donc il n'y a pas de croix sur sa tombe.
Tout à fait, mais il y a un magnifique tapis volant. Ça, qu'il faut
sur sa tombe.
Sur sa tombe, un tapis de mosaïque coloré qui est tout à fait extraordinaire et à son image.
Merci Ariane Dolfus d'avoir d'abord contribué enfin des décennies plus tard à la traduction de cette autobiographie de Nouraïev qui est absolument passionnante. Et merci d'être venu compléter mon récit dans cette émission.
Merci à vous.
Rendez-vous demain à 14h. Salut.
Merci Christophe Ondelat et à demain 14h sur Europe 1 effectivement pour une nouvelle histoire, une histoire criminelle. Cette fois-ci, vous nous parlerez de la tuerie de Flavin. C'était le 14 février 2000, jour de la Saint-Valentin. Patrice Moulinier rentre chez lui et il trouve sa femme morte. La suite de l'histoire, c'est demain à 14h avec Christophe Ondelat. Dans un instant, à 15h pile, c'est Olivier Delacroix qui vous écoute. Bonjour Olivier.
Bonjour Anissa.
Quel est le programme aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous allons parler de la crise d'adolescence.
Oula.
Comment la gérer, cette crise d'adolescence? Car cette époque de notre vie est parfois un véritable enfer pour les parents, mais comme aussi pour les enfants. À partir de 15h, crise d'adolescence, comment la gérer?
Venez en parler, 3921, Olivier Delacroix vous écoute au standard d'Europe 1 et Olivier Delacroix vous lit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.